Salut à tous, chers amis HDRiennes et HDRiens, il est 17h et vous le savez, à 17h, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le Blabla Mix. Le Blabla Mix avec toujours plein de personnes intéressantes autour de la table, plein de chroniques intéressantes, plein de personnes intéressantes derrière la fenêtre. Je vais commencer par là. Bonsoir Ousmane, Ousmane à la technique ce soir.
Bonsoir Damien, comment ça va?
Ça va et toi-même?
Ça va, comment jeudi?
Eh bah très bien, bah, le jeudi on aime bien, moi j'aime bien le jeudi. J'aime bien le jeudi parce qu'il y a Doc Mansour qui nous fait sa petite chronique aujourd'hui, je crois, sur les empoisonneuses. Doc Mansour?
Voilà, exactement. Les empoisonneuses, les empoisonneurs, les alchimistes et autres vaudous.
Super, et ben espérons que ce n'est pas une empoisonneuse, que nous sommes également avec Awa. Awa qui est partie à l'aventure pour vous préparer des petits mon gramon à moi, c'est bien ça Awa?
Tout à fait.
Et ben super, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance là-dedans avant d'écouter l'interview que j'ai été réalisée pour vous hier à Notre-Dame de Bondeville, pardon, au Shed, qui est actuellement en train de faire une exposition très intéressante, je vous l'assure, d'art contemporain. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est vraiment sympa, vous allez en entendre plus à 17h30. Mais d'abord, on s'écoute un petit morceau musical, mon cher Ousmane, pour se mettre en chauffe.
Bien sûr, je vous propose Ara Kilo. Ara Kilo, ben, je ne sais pas c'est quel artiste, mais je fais toujours confiance au travail de Mosquito, donc voilà, qui nous fait des sélections qu'on peut trouver nulle part ailleurs. C'est exactement ça. Donc Ara Kilo. Ara Kilo, Toulouse.
Ara Kilo, musique éthiopienne.
Ça me fait penser à un truc japonais, Arakiri. Donc voilà, je vous propose de découvrir ça, bien sûr, le suspense, c'est exactement ça.
Toulon.
Bambara Toulon means have fun, so. So let's have some fun. Jealousy, rather be chilling with the family happily. Check for me, living on a mountain peak easily. Wanna be cooking with a cousin in Tennessee. Never be lacking cause I'm gonna be simply coming free for the people that much you know we need. Fallacy, probably, possible, logically, a matter of the battle, we about to.
Too low, I'm baby, too low, okay.
Some more Richard Poor, Roger Moore, 007, Hong Connery, on the beat, president wannabe. Gotta be party steed just for the money, see. Most of me happily distracted by fantasy. Gotta be after we finish the masterpiece. That's me, nastily, finally grabbing me. Radically, we got the
studio.
À 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et oui, il est 17h05, c'est toujours le Blabla Mix. Mais avant toute chose, j'aimerais demander à Ousmane de bien vouloir nous rappeler le nom de l'artiste, s'il te plaît. Ousmane, j'ai oublié.
Arat Kilo, t'es méchant, Damien.
Elle est gentille, Yahoua.
Arat Kilo, Toulo.
Bon, bah voilà, il y arrive. Hein.
Et je dis, c'est parce que Arat, ça me fait penser à Arakiri, mais je sais pas pourquoi.
Bon, ma chère Yahoua, tu nous annonces la renaissance de Mon Gramont à moi, c'est bien ça?
Et oui, comme le phénix, Mon Gramont à moi renaît. Donc, au cœur du centre, au cœur du quartier Gramont, la Sablière pour les anciens, il y a le centre social Simone Veil, anciennement centre social de la Sablière. Et à l'intérieur de ce centre social, il y a moult activités. Et donc là, je suis allée rencontrer la responsable, Julie Thiénot, qui, elle, est référente famille et qui, avec son équipe, a ouvert le CLAS, donc contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, on a eu un petit échange à ce propos. Elle va vous présenter son travail.
Nous sommes au centre socioculturel Simone Veil, ancien centre social Gramont. Hein, il était connu des habitants sous le nom du centre social Gramont La Sablière. Alors réellement, le centre socioculturel a vu le jour il y a à peu près un an. Hein, le nom a changé à cette période-là. Ce qui était très intéressant, c'était à l'initiative des habitants. Il y avait eu en fait une consultation. Donc, est sorti le nom Simone Veil. Donc, on était ravis. Réellement, la municipalité a remis en place une équipe de professionnels d'agents ville. Donc, mon directeur, il y a à peu près 3 ans, donc à la fermeture du centre social La Sablière. Et moi-même, je suis arrivée il y a un an à peu près. Ma collègue également. On a gardé la même configuration du centre comme il était auparavant. Hein. Il y a toujours le centre médico-social, la poste, la permanence CAF, la présence de l'ensemble des associations du quartier, donc qui sont très importantes pour nous. Et on a pu obtenir de nouveau un agrément CAF, hein, donc nous sommes ravis. Mais il a fallu qu'il y ait, dans le cadre de cet agrément, la mise en place d'un référent famille, donc le poste que j'occupe actuellement. L'objectif de cette mission, c'est de créer des espaces d'accueil pour les familles, l'ensemble des familles du territoire, mener des actions collectives, d'information, de prévention, des actions socioculturelles, donc participation à des actions, à des spectacles, à des activités sportives, de loisirs, et également la coordination du CLAS. C'est un dispositif de la CAF. Alors, les horaires, de 16h à 18h, le mardi et le jeudi. Nous accueillons les parents avec les enfants, mais en ce qui concerne notre groupe actuel, c'est majoritairement que les enfants, voilà. Puisque les parents sont dans l'incapacité de pouvoir venir pour des raisons professionnelles ou personnelles, parce que souvent il y a beaucoup d'enfants aussi dans les familles, donc des tout-petits, qui peuvent être difficilement sur l'action classe, puisque nous accueillons les élèves de CM1, CM2 de l'école Honoré de Balzac. Le classe a commencé en janvier de cette année. Il faut savoir que les élèves nous sont orientés par l'école, hein, prioritairement.
Donc, un travail de partenariat là, avec les enseignants.
Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas nous qui choisissons qui vient aux classes.
Ni les parents qui viennent spontanément avec leurs enfants.
Ni les parents qui viennent spontanément avec les enfants. Toutefois, on est resté ouvert cette année à des parents qui nous auraient sollicité pour pouvoir mettre leur enfant sur le classe, qu'on puisse accueillir leur enfant, ou alors des enfants tout seuls qui sont venus nous voir en nous disant « Mais Julie, j'ai une copine qui est dans ma classe et qui est au classe, donc est-ce que je peux venir ?» Alors, on est sur une année d'expérimentation, hein, de préfiguration du classe, où l'idée qu'on a voulu mettre en avant, c'était de soutenir les élèves méthodiquement sur la réalisation de leurs devoirs, hein, mais surtout pas du soutien scolaire. Hein, on ne peut pas avoir cette prétention, nous ne sommes pas des enseignants.
C'est hein, ça.
Donc, il ne faut surtout pas se tromper, c'est offrir un lieu où les enfants peuvent faire leurs devoirs en toute sérénité, et trouver un ou deux intervenants pour les aider. Alors, pour être aidé, ça peut être un camarade, ça peut être un professionnel du centre socio-culturel qui est sur le CLAS. Ça peut être, on accueille aussi de nombreux stagiaires, des grands stagiaires qui peuvent donner un coup de main. Voilà, ce n'est pas du soutien scolaire. C'est un vrai travail sur l'estime de soi. Je veux que les élèves, les enfants qui viennent au centre, parce qu'on se voit régulièrement aussi sur d'autres activités, hein, le hip-hop par exemple, des activités avec le centre, des sorties, parcours du cœur, la danse, le théâtre. Je veux qu'on arrive à travailler sur vraiment la valorisation, l'estime de soi, être un enfant, s'amuser. On peut apprendre en s'amusant. Et donc, justement, pour renforcer tout ça, on a mis en place sur cette année de classe, hein, d'expérimentation, des ateliers comme du théâtre d'improvisation, des ateliers vidéo qui ont très, très bien marché également. Beaucoup de notions de... On veut permettre aux enfants de pouvoir développer leur créativité. On a commencé tout doucement au mois de janvier. On a commencé avec 3 enfants, puisqu'on proposé pour la première fois cette formule classe. Alors au départ, j'étais même pas sur le classe, c'était ma collègue qui gérait et coordonnait classe. J'ai repris l'activité parce qu'il y avait un vrai intérêt, vraiment être en lien et accompagner la famille dans sa globalité, ce qui est très très important. Quand on veut travailler la parentalité, c'est à la fois aller avec les enfants faire un laser game et puis s'amuser, et à la fois recevoir et soutenir la maman pour différentes démarches. On est arrivé à 17 enfants, on a une moyenne de 15 enfants par soirée, hein, le mardi ou le jeudi, parce qu'il y a des enfants qui ont des activités sportives sur un des deux jours, donc ils ne peuvent pas être là les deux jours. On a eu la chance d'être soutenus par la ville sur la possibilité d'accueillir 2 animateurs, parce que j'étais toute seule avec mes prestataires. D'accord. Au niveau du bénévolat, c'est un axe qu'on veut vraiment développer à la rentrée, où effectivement nous avons déjà 4 bénévoles en attente, très motivés, qui avaient besoin, donc ce sont des habitants, membres d'associations, qui avaient besoin de savoir ce qu'était classe aussi, pour voir quelle était leur place dans ce dispositif-là, comment on pouvait articuler ça ensemble. Et je souhaitais avoir 2 animateurs, nous souhaitions avoir 2 animateurs, pour le côté, on veut professionnaliser en fait cette intervention, oui. Ce qui nous semble important. Et les 2 animateurs en plus sont 2 intervenantes qui sont sur le périscolaire dans les écoles primaires, donc les enfants les connaissent. Ce qui est très important, c'est les repères. Pour l'année prochaine, nous avons refait notre demande pour le CLAS sur les périodes scolaires. Le CLAS va bientôt s'arrêter comme les vacances scolaires et reprendra au mois de novembre, donc juste après les vacances de la Toussaint. Tout à fait, exactement. Et on va travailler en lien fort avec le programme de réussite éducative, oui, sur cette question des enfants qui pourraient relever ou non du dispositif classe, pour être au plus près des difficultés, des besoins des habitants, des enfants du quartier. Alors c'est 17 aujourd'hui, le total c'est 17. L'année prochaine, on veut rester sur le même chiffre. On sera sur 2 groupes de 8. Donc un groupe de 8 enfants CM1, un groupe de 8 enfants CM2. Les vraies évolutions, c'est qu'on va, donc l'arrivée des bénévoles, voilà, on va avoir 4 bénévoles qui vont proposer différentes activités. Donc on va avoir un atelier créatif qui va être réalisé par le président du comité des anciens, Gramont, pour travailler vraiment sur les échanges intergénérationnels, ce qui est très important. Il va y avoir également tout un travail autour des jardinières. Il va y avoir des jardinières mises en place par un collectif d'habitantes. Et on travaillera autour de l'éco-citoyenneté. Et le troisième axe va mettre en place aussi tout un aspect santé et bien-être. Alors ça va être dans un premier temps avec des bénévoles, hein, donc des mamans pour le coup, qui vraiment veulent travailler, développer des activités autour de l'équilibre alimentaire, des ateliers de cuisine, quelque chose de très sympa, ainsi que des ateliers sportifs. Et je pense qu'on va développer, on fera intervenir des prestataires qui s'y connaissent dans ces domaines.
Eh oui ma chère Awa, c'est à toi.
Voilà, donc c'était le premier volet. Et du coup, lors de cette rencontre, ça a été aussi l'occasion de présenter aux enfants l'atelier, enfin la radio, l'outil radiophonique, donc bon, un micro et un casque. Et ça a suscité des petites vocations de reporters. Donc vous retrouverez sûrement les enfants en tant que reporters, puisque dans les épisodes à venir, on va découvrir la bibliothèque Gramont, appelée Simone de Beauvoir.
En tout cas, ça fait plaisir de retrouver mon grand-mère. Moi, je me rappelle, le dernier épisode avait un son un peu particulier parce que c'était moi qui l'avais fait. Et j'étais avec un monsieur qui en même temps triait des clous. Vous allez voir que je suis abonné aux interviews avec des sons un peu particuliers parce que tout à l'heure, il y aura un peu de perceuse hein, pour les amateurs. Et bien sûr, j'oublie, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai oublié le duc de Radio HDR qui lui-même, hein, j'ai nommé Ousmane, qui lui-même vous a produit une petite interview, mon cher Ousmane, non ?
Bah, c'est juste la preuve que le duc n'est pas si duc que ça. Non, donc hier, donc voilà, avec Chinese, on est parti rencontrer un ancien prof de peintre d'art, comment
art plastique,
dire ça, d'art plastique. Ouais. Enfin, je pense à plastique quand je dis art plastique. Alors tout n'est pas en plastique.
Non, non, mais plastique au sens matériel, mon cher Ousmane.
Ouais, mais faut pas faire attention à mon jeu de mots pourri. Donc voilà, il nous a accueillis dans son atelier après une vie de d'enseignant et maintenant il a son atelier aux 40 rue aux Ours, donc. Il nous a accordé une petite minute et nous a expliqué, parlé de son travail, son parcours et aussi son regard sur la société. On écoute ça.
Bonjour.
Depuis combien de temps faites-vous peindre ?
Depuis combien de temps j'ai fait de la peinture ? Oh là là. D'après mes souvenirs, c'est depuis l'âge de 12 ans. Et à 16 ans, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts. Ça a été difficile parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse les Beaux-Arts. Et
pourquoi ?
Bon, ils voulaient que je passe le bac, comme beaucoup de parents. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas besoin d'avoir le bac pour entrer aux arts. Il fallait le niveau de 3e et on passait un concours d'entrée. Voilà.
D'accord. Aimez-vous ce que vous faites ?
Je suis pas maso. Hein. Oui, j'aime ce que je fais. Satisfait, pas forcément. Il y a des choses que je reprends, que... Bon, je jette peu, mais souvent je reprends quelques mois après. Enfin, vous parlez de ma peinture ou...
Oui.
Oui. Voilà. D'accord. Oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Oui.
D'accord. Avez-vous d'autres projets que la peinture ?
Des projets, non, des actes. Moi, les projets, j'en ai pas. J'aime beaucoup la pédagogie, j'aime beaucoup les enfants. J'ai 6 enfants.
D'accord.
De 4 mamans différentes, dont 3 que j'ai adoptées en Afrique. Et ça me prend beaucoup de temps, en fait.
D'accord.
J'ai toujours dessiné gamin. Chez mes parents, il y avait des belles reproductions de Dali, de Van Gogh, de Picasso. Et quelque part, on est un peu saisi par des images. Je sais dessiner... j'ai une formation archi-classique. J'ai appris à dessiner. J'enseigne... J'enseigne le dessin. Donc c'est... En fait, savoir dessiner, c'est savoir regarder.
D'accord.
Voilà. Et tout le monde peut dessiner. Il suffit de savoir regarder, d'apprendre à regarder. Voilà. Mais, bon, quand je fais... Par exemple, quand on me commande un personnage ou un paysage, je m'ennuie. Alors que j'aime beaucoup regarder chez les autres peintres, hein. Mais moi, faire, c'est vraiment l'abstrait. Je trouve que c'est la peinture abstraite qui rend le mieux compte du réel. Voilà. Et puis, on n'est pas bordé. C'est à l'infini. C'est multi... il y a une multiplicité de sens. J'ai des peintures que j'ai faites depuis 20 ans. Le matin, je les vois, c'est comme si je les voyais pour la première fois. Je suis allé, mon mental est allé sur une piste que je n'avais pas encore vue.
Sinon, aimez-vous un style en particulier ?
Non, je suis très... Alors, c'est comme la musique, je suis très éclectique. Au niveau de ce qu'on aime ou ce qu'on aime faire ?
Les deux.
Voilà, moi, il y a des choses que j'aime dans tous les domaines, dans toutes les époques.
Dans l'art ? Aimez-vous un style en particulier ?
C'est comme la musique. Hein. Pour moi, il n'y a qu'une seule musique. Une seule bonne musique, c'est quand elle est juste. Quand elle est... Ça y est, tout est là, tout est en place. Quoi.
D'accord.
Bon, j'ai un peu de mal avec le rap, hein, je vous dis. Le slam, c'est mieux. Grand corps malade, j'adore. Mais le rap, j'ai du mal. Quoi. Il y a la musique classique aussi. Hein. La musique classique, il y a des merveilles. Il y a vraiment des bijoux. Quoi, des... On pourrait discuter sur le fait de savoir s'il faut apprendre, en fait. Il y a des gens, ils sont autodidactes, ça pulse. Il y en a qui finissent à l'asile, il y en a qui... Mais ça pulse, quoi. Mais en général, le processus, c'est qu'on a une envie il faut structurer cette envie et apprendre. Quoi. Il n'y a pas que les techniques à apprendre. Hein. Il y a apprendre à regarder ce qui s'est fait, ce qui se fait, ce dont on est porteur, qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir.
Combien de temps cela vous prend à réaliser une peinture ?
On a posé la même question à Picasso. Une vieille dame lui a posé la question. Monsieur, combien de temps vous avez mis pour faire cette peinture qu'elle regardait ? Et Picasso lui a répondu, 40 ans, madame. Non. Mais oui, parce que c'est... en fait, on transporte avec soi ses désirs, son expérience, ses connaissances, ses envies, et puis tout ce qui est encore dans l'ombre, dont on est encore inconscient, mais qui peut surgir sur la toile. En général, voilà, je mets une semaine pour faire une peinture d'un format, et puis des petits formats comme ça. Ça passe ou ça casse.
Vous représentez quoi dans vos peintures, à peu près ?
Comment dire ? Joker, c'est ça ?
Le mix de toute la culture, 99.1.
Point 1. Bienvenue dans l'émission la plus malaisante du PAF. Bon bah c'était super cette petite interview, c'était très touchant. Malheureusement l'heure des choses touchantes touche à sa fin, parce que je vous rappelle que vient ensuite la chronique Instant d'Histoire du docteur Mansour. Attention, n'oubliez pas chers amis, ne mangez pas pendant la chronique du doc Mansour, bien sûr. On s'écoute un petit peu de musique, Ousmane, pour que les gens puissent se préparer psychologiquement et signer leur testament avant le début.
Bien sûr, et bien à ton avis j'ai choisi qui comme, enfin homme ou femme comme musicien en musique.
Oula,
l'artiste.
Je sais pas, le groupe Cannibal Corpse peut-être.
Non, mais c'est bon, j'ai pris Root Brown, c'est tout.
D'accord, okay. Super.
Ça va, elle était pas empoisonneuse, Doc. Non, elle est pas sur la liste, ok, mais c'est bon alors.
Wild, wild young men like to have a good time. Wild, wild young men like to have a good time. Wild, wild boyfriends like to lose their mind. Wild men dig me, but I love a cool one.
Ça y est déjà, chers amis. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai attaqué le jingle, mon cher Ousmane. Qu'est-ce qui se passe ce soir?
Tu commences à devenir comme ton lapin, mon gars.
Eh ben ouais, je suis très perturbé, puisque là, actuellement, vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais nous avons entre les mains une liste en rapport avec la chronique Instant d'Histoire de ce soir. Et croyez-moi, c'est peu amusant. Hein. Cher Doc Mansour, est-ce qu'on n'attaquerait pas cette fameuse chronique?
Bah oui, donc on va parler d'une certaine Marie-Madeleine Andre d'Aubray. Donc elle est née le 2 juillet 1630. Et en fait, elle est très bien née parce qu'elle est l'aînée de 5 enfants d'Antoine Drieux d'Audrey, qui lui était seigneur dauphinois et lieutenant civil du Châtelet de Paris. Et à l'époque de la Fronde, qui est une fronde qui avait été contre le roi, il s'est fait connaître, et on connaît plus ou moins sa biographie dans les mémoires du cardinal de Retz.
Et il s'est fait connaître dans le bon sens, ou il était du côté des frondeurs ou du côté du roi?
Du roi.
D'accord, bon, ça va.
Mais en fait, elle est, c'est notre chère protagoniste, elle est orpheline de mère, morte en couche, sa mère. Et en fait, elle est de bonne famille, elle vit plutôt bien, très bien lotie. Et en fait, vers une bonne éducation, comme on pouvait avoir pour une jeune fille de l'époque, en fait, elle est richement dotée de 200 000 livres. Alors, juste pour rappeler, une livre de l'époque, c'est à peu près 10 euros.
Ah oui, c'est pas mal.
Ah oui, plutôt. Donc, elle épouse un certain Antoine Godelin, marquis de Brinvilliers. C'est comme ça qu'on l'appellera, la marquise de Brinvilliers.
D'accord.
Qui lui était maître de camp et qui commandait un régiment en Auvergne. Mais il a une passion par-dessus tout. C'est pas les femmes, c'est le jeu. C'est un joueur invétéré.
C'est pas bon, ça.
Eh ben, le problème de l'époque, c'est que les riches s'empruntent entre eux quand ils sont de très gros joueurs. Mmh. Donc souvent, certains risquent la faillite à tout moment et peut y avoir quelques petits incidents entre eux. Mais en fait, cette jolie femme, parce qu'à l'époque, j'ai vu son portrait d'un teint très blanc, des yeux très clairs, et une femme qui a plutôt beaucoup de charme et qui s'attire beaucoup de, on va dire, de prétendants. Et justement, son mari n'est pas très regardant par rapport à ça, parce que lui-même entretient des relations extra-conjugales.
Oui, disons que ça arrange presque même ses petites affaires. Quoi.
Bon, en gros, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, et peu importe. Et en fait, elle aura quand même 7 enfants. Dont, alors selon les biographies, c'est 3 ou 4, mais qui sont totalement illégitimes.
Ah.
Et en fait, ils vivent sur un hôtel particulier, en plein milieu de Paris. Tout se passe bien plus ou moins pour elle. Et un jour, en fait, elle devient l'amie de Penautier, qui est le trésorier des États du Languedoc, homme d'affaires, et qui aussi, surtout, est receveur général du clergé.
C'est-à-dire
que tous les dons que le clergé recevait passaient par ce Penautier.
D'accord.
Qui après redistribué aux différents chevêchés et autres. Donc ce monsieur, disons qu'il brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis elle va connaître un certain Goudin de Sainte-Croix, un officier de cavalerie passionné. Alors curieusement, lui, il est passionné par plusieurs choses, les femmes, l'alchimie et un joueur invétéré.
Ok, bon, ça fait quand même un trio un peu risqué là.
Oui, et surtout que c'est un des meilleurs amis de son mari.
Oula.
Et justement, elle devient sa maîtresse.
Oula, attention, monsieur le mari.
Ah, et justement, pour l'instant, le mari dit trop rien. Lui, il se soucie guère de cette relation. Ça l'arrange plutôt bien. Par contre, le père de notre cher mari, lui, ça ne l'arrange pas du tout. Il déteste cet homme.
D'accord.
Donc, comme il a des relations, grâce à une lettre de cachet qui se fait... Parce qu'une lettre de cachet, c'est une lettre du roi, donc on pouvait arrêter qui on voulait et le mettre à la Bastille comme on voulait.
C'est un petit peu le principe de la garde à vue aujourd'hui, quoi.
Oui, parce que là, c'est pas la garde à vue, c'est carrément de l'emprisonnement. Donc Sainte-Croix se retrouve justement en cellule à cause de cette relation. Et il va faire la connaissance d'un Italien, Exili, qui a la réputation d'être un maître empoisonneur.
Et voilà.
Donc de là, on peut imaginer tout ce qui va pouvoir se passer vu qu'on parle justement de poison. Donc ce chevalier fait connaissance avec... Au bout de 6 semaines, Sainte-Croix sort. Il continue sa relation avec cette chère Marie. Mais là, commence à avoir un plan de vengeance. Parce qu'il en veut beaucoup au père de sa maîtresse.
On peut le comprendre. Hein.
Donc, comme elle ne sait pas préparer de poison, lui oui. Donc, imaginez le plan qui peut s'éboucher.
Mais elle est complice? Elle participe à la planification de l'empoisonnement?
Elle l'avouera plus tard.
D'accord.
Mais elle a une très bonne réputation à côté de ça, parce qu'elle rend visite à des malades. Ceci dit.
Oh, comme quoi, hein, tout le monde n'est pas parfaitement diabolique.
Non, et elle va à l'église, parfois même 2 fois par jour.
Enfin, elle va à l'église, mais elle a des amants.
Oui, alors je vais contextualiser par rapport à l'époque, parce que ça peut paraître paradoxal, mais à l'époque, ça ne l'est pas. D'accord. Les gens, même s'ils étaient dans les pires péchés, avaient toujours peur du jugement de Dieu, donc ils essaient toujours de se racheter à un moment donné de leur journée.
Ouais, un peu comme Louis XIV, finalement.
Oui, ben, de toute façon, nous sommes en plein air de Louis XIV. Hein. Il a à peine 40 ans, il est en pleine possession de ses pouvoirs et il fait ce qu'il veut. C'est le roi soleil, n'oubliez pas. Donc, à la même époque, comme elle va à l'hôtel Dieu, elle rend visite aux malades, elle est très bien vue, elle les accompagne, elle leur parle. La rumeur veut autre chose aussi, parce qu'en fait, on l'apprendra un peu plus tard, c'est qu'elle testait certains poisons sur certains malades.
Oui, donc quelqu'un de décidément très charmant, en fait.
Oui, tout à fait. Parfois charitable, peut-être qu'elle a peut-être évité certaines souffrances à certains.
Oui, on va dire ça comme ça.
Oui, on va penser comme ça, on va dire.
On va supposer que c'était ça.
Voilà. Pendant ce temps-là, elle empoisonne au fur et à mesure son père.
D'accord.
Mais pas que son père, parce qu'en fait, elle a une vengeance personnelle envers ses frères.
Bon, ça, je suis presque sûr que d'un point de vue, du point de vue de l'Église, c'est pas très très propre d'assassiner son père.
Ah non, il faut pas. Ni fratricide non plus. Et oui. En fait, elle va commencer à empoisonner ses frères aussi. Mais là, pour ses frères, je ne vais pas dire que c'est justifié, mais vu... Lors de son arrestation, on trouvera des lettres où elle avoue plus ou moins un peu sa biographie, où ses frères s'adonnaient au viol sur elle depuis l'âge de 6 ans.
D'accord, bon, donc, bah, là pour le coup, on peut presque la comprendre quand même.
Je ne dis pas que ça explique tout, je ne dis pas que ça excuse, mais on peut comprendre que parfois, ouais, une petite vengeance un peu sournoise peut arriver au fur et à mesure du temps.
Au moins, il y a un mobile.
Oui, et en fait, pendant ce temps-là, elle continue en fait sa vie. Le problème, c'est que son mari n'arrête pas de s'endetter. Donc, elle va dire à son amant à Sainte-Croix de lui prêter de l'argent, lui, et en fait, ils se prêtent l'argent mutuellement.
Lui, il cherche à mourir, lui. On dirait le mec au début d'un épisode de Columbo, là.
Oui, mais justement, ce Sainte-Croix, qui était quelqu'un de très malicieux et de très prévoyant, avait écrit une espèce de testament, parce qu'il va mourir.
Ah bah lui aussi,
il dit. Oui, sauf que lui, il est mort de mort naturelle. Hein.
Ah d'accord.
Et il avait fait écrire sur cette lettre que s'il mourait avant sa maîtresse, qu'on ouvre une certaine cassette. Une cassette, c'est un coffre. Hein.
Ouais.
Donc... Comme en plus lui-même avait des dettes de jeu, donc on appelle les huissiers. Et pour justement les gens qui se sont déclarés en disant « il a une dette envers nous, nous avons des promesses de dette, des reconnaissances de dette », et bien en fait on va perquisitionner chez lui. D'accord. On trouve cette fameuse cassette qu'on ouvre, et on y trouve quoi ? Plusieurs fioles mystérieuses et des documents.
Je suis presque sûr que c'est pas du coca.
Non, mais dans les documents, le problème c'est qu'il y a des noms.
Oh ! On aime bien ce genre de petites
affaires.
Et surtout
des lettres, non seulement d'avoir des lettres de reconnaissance de dette de gens qui lui devaient de l'argent, ce qui pourrait rééquilibrer le fait qu'il doit de l'argent ou qu'on lui doit de l'argent, et bah les fioles, en fait, on va passer ça à plusieurs personnes et on va dire, bah, essayer de savoir ce que c'est.
Mais il y a du gros nom ou pas sur les listes ?
Oui, jusqu'au proche du roi.
Oh !
Et des très jolis noms. Et en même temps, il y a des querelles entre ces gens-là en plus. Donc tout le monde va plus ou moins essayer de se dénoncer à un moment donné. Donc on découvre qu'en fait, c'est des poisons après avoir testé ces fameuses fioles sur des animaux.
Oui, bon, après, les essais sur les animaux, on pourra en reparler, mais pour le coup, c'est plutôt légitime.
Voilà. Alors, notre chère marquise, elle, pendant ce temps-là, bah, elle apprend la mort de son amant. Et en fait, on lui fait plus ou moins comprendre que ce serait bien qu'elle aille voir ailleurs si elle n'y est pas.
Mais pourquoi ? Parce que elle, j'imagine que du coup, ça l'implique, cette histoire de cassette. Oui. Il doit avoir des... Mais pourquoi il lui fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il garde pas ça ? Pourquoi il dit pas jeter ça à l'eau et on n'en parle plus, quoi ?
Non, je pense que même si c'était sa maîtresse, même si elle lui a prêté de l'argent, qui lui a prêté de l'argent, il y avait une frontière sur la confiance qui n'avait pas été réellement établie.
Il croyait peut-être qu'il avait été empoisonné par sa maîtresse ?
Il prévoyait peut-être,
voilà,
de se faire empoisonner.
D'accord.
Disons qu'à cette époque-là, c'était un peu coutumier. Alors, pour dire que c'était coutumier, c'est juste pour vous dire que tout le monde s'adonne, entre guillemets, à la magie blanche, à la magie noire, à des sacrifices plus ou moins douteux, mais aussi à des séances de vaudou.
D'accord.
Parce qu'on pratiquait les poupées, on les piquait.
Le vaudou des Caraïbes
Qui existait en France.
D'accord.
À la même époque. Okay. Donc tout le monde s'adonnait à ça. Hein, et pourtant, tout le monde allait à la messe et tout le monde était plus ou moins bien présentable. Hein.
Ouais. Oui, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des séances de spiritisme, etc.
Oui, tout ça, tout en même
c'était
temps.
C'était très
là,
prisé à la cour.
Oui, mais pas qu'à la cour. Même dans les milieux les plus modestes. Vu qu'on allait voir parfois des rabouteux et d'autres dans les cours des miracles. Et pas la cour des miracles, parce qu'il y en avait plusieurs à l'époque, dans plusieurs endroits. Donc on voyait souvent des gens très bourgeois, très bien habillés, qui parlait d'une façon très distinguée, aller voir les personnes parfois les plus mal aimables, on va dire entre guillemets, pour avoir des conseils ou des séances de divination.
Et c'est comme quand on cherche son chemin et qu'on demande à un agent de la TCR, quoi.
Voilà. Mais en fait, on sait qu'à l'époque, en fait, en même temps, on va interroger les gens, parce que voilà, Sainte-Croix est mort de naturel, mais les noms qu'ils donnent ne sont pas morts de mort naturelle. Donc c'est des aveux.
Ah.
Et justement, parmi les noms, il y a les noms du père et du frère de cette brave marquise.
Bon, elle est partie, là.
Là, elle est en fuite.
D'accord, bon.
Donc on interroge le valet de Sainte-Croix, la chaussée, il s'appelle comme ça, la chaussée, alors qui lui avait aidé le marquis, justement... qui lui servait non seulement de majordome, qui lui servait aussi de tueur à gages par certaines occasions, mais il dit que la marquise n'est au courant de rien.
D'accord, il la protège.
Bah en fait oui, ça ressemble, c'est plus que...
C'est
plus
certainement que sa maîtresse.
Bien vu, j'ai même pas pensé.
À moins qu'il ait eu des instructions de son maître. Parce que, en fait, la chaussée a failli avoir une charge qui a failli être achetée par Sainte-Croix, c'est-à-dire qu'il allait devenir gobelet du roi. Alors, gobelet du roi, c'est celui qui sert le vin au roi.
Oula.
Alors, gobelet du roi, qui est le valet d'un empoisonneur, imaginez tout de suite ce que ça peut faire dans la tête des enquêteurs.
Même dans la tête de Louis XIV, quand ça remontait à ses oreilles,
c'est très vite remonté à
ses
oreilles. Alors, sachant que ça, entre guillemets, sa belle-sœur, qui était en Angleterre, avait été empoisonnée. Donc, il y a déjà un souvenir sous-jacent.
On n'est pas sûr qu'elle était empoisonnée. Elle pensait qu'elle avait été empoisonnée. Après, justement, ils ont fait goûter ce qu'elle avait bu à des chiens. Les chiens s'en sont très bien portés. Voilà. Peut-être qu'Henriette d'Angleterre était un petit peu siphonnée.
Aussi. Mais bon, le souvenir à l'époque était là encore pour lui. Donc, parmi tout ça, on retrouve d'autres éléments. Et là, donc, ce qu'on appellera la police, à l'époque déjà... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve certains noms comme François Degré qui lui fera une tentative de suicide qui va échouer. Et on commence à interroger certaines personnalités et on se rend compte que ces personnalités sont plus ou moins proches du roi et de la cour. Ce qui fait que le roi, à un moment, va prendre une décision, c'est qu'il va faire en sorte qu'il y ait une chambre ardente qui sera en fait un tribunal ou du moins... une équipe d'enquêteurs très spécialisés et qui seront chargés qu'à ça, qui doivent tout lui remettre qu'à lui.
Bon là, je sais pas pour toi, cher Awa, mais on a tous un nom en tête, là, on veut l'entendre, là. Athénaïs de Montespan, elle est main dedans ou pas? Est-ce qu'elle est sur la liste?
Elle y est sur la liste.
Elle est sur la liste. Là, ça doit pas faire plaisir non plus, là.
Bah non, mais justement, on essaie de la cacher.
D'accord, donc, c'est le pouvoir royal qui essaie de cacher que Montespan est trempé là-dedans.
Mais normal.
Ouais, bah
quand
oui,
on sait qui elle est réellement.
Oui, donc du coup, la maîtresse, la favorite de Louis XIV depuis plusieurs années.
Et la mère de ses enfants.
Et la mère de ses enfants aussi, ouais.
Donc là, ça commence à toucher le plus haut pavé. Donc elle sera plus ou moins protégée, on fera plus ou moins taire les rumeurs et autres. Mais on va s'intéresser à pas mal de gens, et surtout, la mairie qui est, lui, l'enquêteur spécifique. D'ailleurs, la mairie qui a fait en sorte que... une partie de ce qu'on appelle les cours des miracles soit totalement nettoyée. Et si on veut l'expression, un qui l'avait sorti en son temps, qui avait dit qu'il allait nettoyer des quartiers au Karcher, la marée, lui, l'a réellement fait.
Ah oui, mais elle, quoi, en lançant des seaux d'eau?
Non, il est arrivé un soir, il leur a dit, voilà, dès demain matin, je veux voir plus personne. Et les 15 derniers qui y seront non seulement bastillés, mais envoyés aux galères.
Il
a encerclé les quartiers.
Hein. Par rapport à d'autres trucs que Louis XIV a pu faire, des dragonnades, tout ça, finalement, ils s'en sortent pas si mal.
Oui, ils s'en sortent. justement, le quartier a été nettoyé plus que quand ils sont revenus le lendemain, il n'y avait vraiment plus personne.
Il vaut mieux être empoisonneur que protestant, finalement.
Voilà. Et en fait, bon, notre chère comtesse, elle va partir en Hollande. Elle va voyager, en fait, pendant ce temps-là. Et en fait, elle va se réfugier en Belgique, à Liège, dans un couvent.
D'accord, bon, c'est pas forcément les pires des décisions.
Non, mais en fait, elle sera quand même arrêtée dans ce couvent, et c'est là qu'on trouve ces fameuses 10 pages où elle écrit un peu sa biographie. Oh. Et là, elle avoue quasiment tout. Alors, faut savoir qu'à l'époque, c'est une société totalement puritaine en réalité, sans tabou, mais puritaine à la fois. Si vous dites, les paradoxes de l'époque, ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Elle avoue la sodomie, elle avoue aussi avoir avorté, ce qui est un scandale. Parce que.
Est-ce qu'on s'en garderait pas un peu sous le coude pour la semaine prochaine, cher Doc Mansour?
Oui, tout à fait.
Là, on s'est laissé embarquer, on n'a pas fait gaffe à l'heure, dites-moi. Oui. Oh, bah, il est déjà 17h38, mon cher Ousmane. Est-ce qu'on met de la musique ou est-ce qu'on mettrait pas un petit jingle avant de passer à la suite?
Une musique courte ou sinon un petit jingle long et puis on enchaîne.
À toi de me dire, cher réalisateur.
Eh, hey, mon Dieu. Ok. Donc, ok, un petit jingle long alors.
Parfait.
Radio HDR 99.1 Radio HDR 99.1, les mix des cultures.
Le mix des cultures.
On dirait du portugais.
Les mix des cultures.
Bon ben voilà, voilà, on est déjà de retour. Nous, on est encore saisis par ces histoires de poison. Je peux vous dire qu'on ne boira plus du café aussi apaisé dans ces studios, au moins le jeudi quand Doc Mansour est là. Bon, mon cher Ousmane, tu n'es pas sans savoir que j'ai été faire une interview hier au Shed, j'en ai parlé tout à l'heure. Je propose qu'on envoie ça. Avant toute chose, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les petits bruits désagréables à l'arrière, puisque c'est également un atelier d'art, donc on entend les artistes qui travaillent, voilà. On envoie ça, mon cher Ousmane.
Bonjour, donc je m'appelle Jonathan Lopin, je suis artiste et directeur artistique du Shed, qui est un centre d'art contemporain géré par des artistes.
Pourquoi ce nom, le Shed, c'est un acronyme de quelque chose ?
Ça aurait pu être un acronyme, il y a un artiste qui nous a proposé Surface Habilité aux expériences délicates, que j'aime bien. Non, en fait c'est le nom des toits d'usine en V, caractéristique de l'architecture industrielle, avec toujours une orientation nord-sud, de la lumière indirecte pour avoir une température et une lumière constante dans les ateliers de fabrication. Et on a gardé le shed comme nom parce que ça marque vraiment le bâtiment et le lieu.
Bon là, pour bien expliquer à nos auditeurs, on est effectivement dans un vieux bâtiment d'usine avec les fameux donc toits shed, j'imagine que ça va être comme ça, les fameux toits obliques, voilà, une usine à l'ancienne. Bon, on est ici bien sûr pour parler de l'exposition Matrice, mais profitons-en également pour parler du shed. Quelle est l'origine de cette association, dans ce collectif, comme on peut dire ?
Alors oui, c'est une association, le Shed, et comme beaucoup de lieux, surtout des lieux subventionnés, parce qu'on reçoit de l'argent public pour fonctionner, la particularité, c'est que c'est un endroit privé. Ce sont un groupe d'artistes, dont je fais partie, qui ont acheté le lieu, et dont un peu moins de la moitié est réservée à l'accueil d'exposition et donc est ouvert au public. L'autre moitié étant plutôt des ateliers, des zones de stockage et des bureaux. Et donc, le bâtiment était un peu démesuré pour ce groupe d'artistes voulait faire, c'est-à-dire vraiment travailler. Et donc Julie Feto et moi-même, qui avons acheté au tout début une partie de ce bâtiment, avons décidé d'ouvrir un lieu pour l'art contemporain, et donc en étant un lieu de fabrication d'œuvres, d'accueil d'artistes et d'exposition.
Et c'est à quel âge le Shed ?
Ben, c'est pas très vieux en fait, on a ouvert fin 2015, mais on a été vite, c'est-à-dire que quand on a ouvert, il y avait encore des camping-cars garés au fond parce qu'il y avait des baux en cours, et donc c'était un peu folklorique, le bâtiment n'était pas encore prêt, donc on était un petit peu fougueux de vouloir faire tout de suite une exposition pour inaugurer cet endroit. Mais c'est vraiment l'endroit qui nous a donné envie de faire ce projet.
Pourquoi cet endroit du coup, puisque c'est pas l'exposition qui a initié l'endroit, c'est l'endroit qui a initié l'exposition, pardon. Pourquoi installer des artistes dans d'anciens locaux industriels à Notre-Dame de Bondeville ?
Alors, il se trouve que j'ai fait mes études à Paris, je vivais à Paris, et dans ma pratique de la sculpture principalement, j'ai voulu quitter Paris et trouver un atelier, un logement, et je me suis installé donc il y a 10 ans, exactement 10 ans, sur ce site là où on se trouve, qui est une ancienne usine de mèche de bougie qui a ouvert en fin 19e et fermé début 21e et qui avait la particularité d'avoir, vu que l'activité avait cessé, des grands espaces vides et à des prix très raisonnables. Donc moi je me suis installé en tant qu'artiste, mais j'habitais aussi là dans un des bâtiments qui est à 50 mètres de là où on se trouve. à l'entrée du site. Et je cherchais un endroit pour stocker mon matériel et mes œuvres qui... Voilà. Le problème de la sculpture, c'est que, contrairement à l'aquarelle, il faut un petit peu de place pour stocker les travaux précédents. Donc voilà, en cherchant un endroit où il y avait de la place, j'ai fait un peu des cercles concentriques autour de chez moi. Et c'était difficile de trouver plus près. Donc voilà, on est tombé sur ce bâtiment en cherchant une zone de stockage. Et il se trouve que, voilà... On est tombé un peu amoureux de cet endroit qui a une forme particulière, des couleurs particulières. Donc, pour décrire à vos auditeurs, le sol est en tomates rouges, les murs sont en briques rouges, mais aussi peints en verre. La structure est en acier, c'est assez haut sous plafond, très lumineux. Et donc, c'est vraiment un endroit qu'on a laissé dans son jus, comme on dit, qui nous a tout de suite donné envie de confronter des œuvres, des artistes à cet endroit.
Du coup, c'est cet aspect industriel qui vous a inspiré un peu cet art dont on reparlera tout à l'heure, qui est quand même assez industriel, ou est-ce que déjà avant, vous étiez très intéressé par la thématique industrielle dans vos sculptures ?
Alors non, l'exposition qui est là aujourd'hui en place, qui s'appelle Matrice, c'est très circonstanciel. Donc, Non, c'est la première fois là qu'on montre vraiment une exposition qui parle de ce monde-là. Je vais revenir à l'exposition après, mais la première envie, c'était aussi de... quand on est habitué, amateur d'art, à visiter des expositions, on est plus habitué à ce qu'on appelle les white cubes. White cube, c'est l'archétype du musée, c'est-à-dire sol gris, mur blanc, éclairage homogène. Donc là, c'est l'exact opposé de ça. Et donc, voilà, travailler dans l'exact opposé, c'était un défi, mais aussi une façon de renouveler un peu ce genre d'activité. Donc l'exposition Matrice, il se trouve que c'est un peu comme un pied de nez. Hein. Moi, je suis directeur artistique du lieu, mais là, c'est une exposition où il n'y a pas d'artistes et pas d'œuvres. Pourtant, l'espace, comme vous le voyez, là, est rempli. Mais donc, en fait, c'est une exposition qui est un peu un sauvetage aussi. Toutes les pièces qui sont visibles dans cette exposition ont été récupérées, sauvées d'une ancienne usine fermée aujourd'hui et qui est en passe d'être même rasée, qui a ouvert en 1870 et qui s'appelait Sénard et qui était une fonderie de pièces mécaniques. Et donc en fait, tout ce qu'on voit dans l'exposition Matrice, dans cette partie-là, parce qu'on en parlera après, mais on a deux lieux maintenant, ce sont des modèles, justement des matrices qui servaient à faire des objets industriels en métal. Et donc, c'est un peu les originaux, c'est les prototypes, l'équivalent du plan en architecture. C'est ce qui permet de reproduire les objets en plusieurs exemplaires et d'avoir une trace de la forme. Montrer des pièces à usage industriel dans un bâtiment industriel, il y a une vraie discussion qui se met en place.
Le shed, c'est combien d'artistes ?
Alors, on est 7, 6 artistes et une commissaire d'expo qui travaille quasiment tout le temps avec des artistes aussi. On est 3 artistes locaux, 3 artistes non locaux qui habitent à Douarnenez et qui travaillent un peu partout dans le monde, 2 qui habitent à Paris et qui eux aussi travaillent un peu partout dans le monde. Donc il y a différentes générations et différentes implications et pratiques dans les artistes qui ont participé à ce projet. Ça reste je ne sais pas si vous entendez dans le son, mais là actuellement il y a un des artistes qui travaille sur sa prochaine exposition. Voilà, on a gardé le fait que c'est un grand atelier, un grand terrain de jeu, un grand laboratoire. C'est une zone où on fait des tests. L'exposition, c'est une expérience aussi. Et moi, je m'attelle en tant que directeur artistique du lieu à tester plein de types d'expositions différentes. Et ça, c'en est vraiment, vraiment une, parce que nous, notre spécialité, avec des guillemets, c'est de montrer de l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui, avec des artistes vivants. Donc là, c'est pas considéré comme de l'art. Les artistes sont pas forcément vivants. Plus, on a plutôt une politique de production d'œuvres. Et là, on n'a rien produit, on a juste tout déplacé. Donc c'est un énorme déplacement d'une multitude de pièces qui ressemble plus à une collection qui n'est pas non plus notre spécialité. Nous, contrairement au FRAC, au Fonds Régional d'Art Contemporain, ou à un musée, on n'a pas de collection, on travaille que dans l'immédiateté sur des projets temporaires. On n'a pas vocation à garder des œuvres et encore moins des modèles en bois industriels. Donc voilà, pour cette exposition se pose aussi la question de qu'est-ce qui va se passer de cette énorme collection d'objets. On y réfléchit depuis un moment.
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature.
Infinita tristeza, infinita tristeza.
Allez, bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
Infinita tristeza. Infinita tristeza. Infinita tristeza. Infinita tristeza. Infinita tristeza.
Говорит Москва.
Mamá.
¿Qué?
Señor presidente.
¿Puedo tener hijos?
Ahora no, porque tienes 7 años.
Señor presidente.
Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
¿Es el niño, la madre o el padre?
El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
¿Y quién es la flor?
Tú.
¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
Ah, yo aún no.
¿Y tú, Quique?
El médico del pueblo.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
El médico del pueblo.
¿Y tú, Quique?
Solo quererse mucho.
¿Y tú, Quique?
¿Y tú, Quique? Solo querés.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado.
Oye, mamá, ¿puedo tener niños?
Bon, là, vous nous en parliez tout à l'heure. Alors, Matrice, l'exposition s'appelle Matrice parce que c'est des matrices industrielles, donc qui servent à faire, j'imagine, des positifs pour les moulages ou des choses comme ça. Question qui me vient comme ça, est-ce qu'ils étaient déjà peints? Parce que là, en fait, on voit que c'est clairement peint. Ou est-ce que c'est vous qui les avez repeints?
On les a juste nettoyés. Déplacés, dépoussiérés, nettoyés et mis en place. Donc, ça paraît... Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais vu l'échelle du lieu et du nombre d'objets, il y a à peu près, là, on a estimé entre 1300 et 1500 objets montrés. Donc, ils étaient dans un état... On a mis du temps à se rendre compte qu'ils étaient colorés, pour vous donner l'état, alors que là, on est devant une multitude de couleurs. Et ce qui est étrange, c'est que d'un point de vue vraiment purement du moulage... Tous les objets qu'on a sous les yeux sont en bois peint et servent de modèle à faire des objets en métal qui, eux, ne sont pas peints et dont les couleurs ne servent strictement à rien. Donc, évidemment, la question, c'est une bonne question. La question de la couleur est une interrogation. Celle de la peinture, non, parce que ça protège le bois. Mais par contre, le fait qu'il y ait des objets verts, bleus, rouges, et parfois même bi ou tricolores, ça, c'est une vraie interrogation. Et je pense que c'était un peu des sortes de friandises pour ceux qui les fabriquaient, d'appliquer des couleurs qui... Je sais pas, il y a eu un moment, ils se sont fait plaisir à mettre des couleurs, parce qu'on a parlé avec d'anciens ouvriers et on n'a jamais eu de réponse sur le choix des couleurs. Et dans ces couleurs, si, pour ceux qui vont pouvoir venir, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'espèces de couleur aluminium qui est en fait un agent un peu gras qui s'appelle un agent démoulant, ce qui servait à démouler les matrices. Parce que tous ces objets en bois servaient à faire des moules en sable qui eux-mêmes servaient à faire des objets en métal. Chaque objet en métal nécessitait un moule en sable qui était après cassé, le sable recyclé pour refaire un nouveau moule. Et c'est une technique assez ancienne, mais qui est encore utilisée, surtout pour les petites séries, parce que là, c'était des objets qui étaient faits à moins de 100 ou 1000 exemplaires, jamais plus. Après, on passe dans d'autres techniques.
Bon, l'art contemporain, c'est parfois un peu compliqué à appréhender, notamment pour des profanes absolus, dont je suis le premier d'ailleurs. Là, on est quand même dans une salle, finalement, on voit, vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais moi je le vois, des grands tréteaux avec plein d'objets, plein de couleurs, des murs blancs sur lesquels sont accrochés plein d'objets, plein de couleurs. Est-ce que la volonté que vous avez ici, c'est de, je ne sais pas, peut-être de déconstruire l'objet qui avait un usage pour en faire un objet beau ou quelque chose comme ça ?
Alors le beau, c'est une histoire compliquée. qui est un peu évacué de l'art contemporain depuis bien longtemps. Après, ça c'est vraiment une histoire personnelle. Beaucoup de visiteurs trouvent ça très beau. Moi aussi je trouve ça très beau. Mais tous les goûts sont dans la nature. Au-delà du beau, moi je trouve ça aussi émouvant parce que ce sont des grandes tables. Il y a 8 tables de 18 mètres de long par 1,20 m de large. Donc il y a de quoi mettre des objets. Et on a 3 grands murs sur lesquels sont accrochées des plaques de modèles. Des plaques de modèles, c'est comme ce qu'il y a sur les tables, mais une seule face. Et vu qu'il y a une face et un dos, on les a accrochés comme des peintures. Donc en gros, c'est une exposition où je considère qu'il y a des sculptures sur les tables et des peintures au mur. Et donc je les ai choisies, celles qu'on voit au mur, comme des tableaux et les objets comme des sculptures. Chacun des objets, j'ai eu la chance de les poser, de les avoir dans les mains, chacun d'eux. Évidemment, je n'étais pas tout seul à faire cette entreprise. Et c'est toute l'équipe du Shed et beaucoup de volontaires et de bénévoles qui nous ont aidés parce que ça a été une grosse entreprise de déplacer tous ces objets. Tous ces gens-là qui sont... Donc l'équipe du Shed plutôt dans l'art contemporain, mais aussi des bénévoles qui ne le sont pas du tout. La ville de Marome, qui l'est peut-être encore moins, mais qui nous ont aidés énormément à tout déplacer et tout ça. En fait, c'était une aventure. Cette exposition était une aventure de vouloir sauver ces objets pour différentes raisons. Peut-être que l'enthousiasme du maire de Marome, David Lamiret, a été de nous aider à sauver un patrimoine de sa ville. Mon enthousiasme a été de peut-être essayer de montrer au public que il y a des sculptures cachées partout, dans des endroits où on s'y attend pas. Et peut-être que certains des bénévoles qui nous ont aidés ont voulu montrer que dans l'industrie, il y a un savoir-faire et tout ça. Je discutais avec des anciens ouvriers. Certains des objets nécessitent 10 jours non-stop de travail pour les réaliser. Et il y en a 1400. Donc là, on est face à une quantité de travail complètement folle. L'art contemporain, je pense que c'est un type d'art qui peut paraître obscur pour pas mal de gens, mais qui est en fait peut-être le plus ouvert. Moi, ça me pose aucun problème de montrer ces objets après avoir montré la dernière exposition. On montrait 18 artistes d'une galerie parisienne, dont certains sont des artistes historiques reconnus pour leur travail depuis longtemps. C'est peut-être l'opposé total de cet univers-là. Et passer de l'un à l'autre, c'est la force de changement d'un lieu comme le Shed, de pouvoir passer d'un univers à l'autre. Et cette exposition a plutôt du succès parce que les amateurs d'art qui vont voir beaucoup d'expos sont surpris de voir cette exposition. Ceux qui ne mettent jamais les pieds dans une exposition sont aussi surpris et intéressés. des profanes aussi, comme vous le disiez, le genre de monde, tout d'un coup, ont une accroche pour voir aussi qu'il y a d'autres façons de montrer les choses. Parce que quand on rentre dans cet espace, moi, mon idée, c'était qu'il y ait un premier choc, une énorme installation.
Le blabla mix !
L'exposition Matrice au Shed. Et oui, malheureusement, chers amis, nous n'aurons pas le temps d'écouter jusqu'au bout cette interview qui m'a coûté tout mon après-midi. Mais bon, on s'est laissé emporter par Doc Mansour. Et c'est vrai que c'est sympa, cette chronique Instant d'Histoire. Donc voilà, c'est bien sûr Matrice, l'exposition Matrice au Shed. Donc de l'art contemporain un peu industriel. Vous retrouvez ça à Notre-Dame-de-Bondeville, au 12 rue de l'Abbaye. Alors c'est une espèce de grande zone industrielle. Demandez, les gens vous diront où c'est. Allez-y, c'est vraiment sympa. Et puis on va dire au revoir à nos chers amis, puisqu'il est bientôt 18h. Au revoir, cher Awa.
Au revoir, Damien.
Au revoir, cher Ousmane.
Au revoir.
Et au revoir, chers HDRiens et HDRiennes.
À demain.
Ciao, ciao, ciao.